Studio Tamani, voici les informations en français.
Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans cette édition qui vous sera détaillée dans un instant. En attendant, voici les titres. Le développement rural est un maillon essentiel pour le progrès du pays. Au Mali, malgré l'élaboration d'une politique en la matière, des citoyens affirment être confrontés aux défis liés au changement climatique et aux déplacements forcés. Dans certaines familles maliennes, les manques de moyens financiers freinent la scolarisation des enfants. Des responsables scolaires et des sociologues soulignent toutefois que la précarité ne doit pas constituer un obstacle à l'éducation. Les collectifs de travailleurs temporaires d'Orange Mali licenciés envisagent de saisir la cour d'appel. Cela après que le tribunal du travail de Bamako s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur affaire. Je suis Fatia Tara, Nouhoum Diré m'accompagne pour le volet technique. Auditeurs, auditrices, bonjour. Je le disais dans le titre, le développement rural est au cœur des politiques publiques au Mali depuis plusieurs années. À travers divers projets, les autorités visent à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Pourtant, sur le terrain, beaucoup de défis demeurent, selon de nombreuses voix ici des zones rurales. Le reportage est signé Dramane Maïga.
Dans les campagnes maliennes, l'agriculture et l'élevage restent les principales sources de revenus. Pour soutenir ces activités, les autorités multiplient les programmes d'appui, à l'image de la distribution d'engrais subventionnés. Mais ces efforts restent insuffisants, selon plusieurs organisations de la société civile. À Bankas, Abdoulaye Guindo, président de la coordination locale de la société civile, appelle à un engagement plus fort en faveur du monde rural.
Si l'État peut mieux s'investir encore dans l'agriculture et dans l'élevage, subventionner pas seulement les engrais et autres, mais subventionner aussi des outils agricoles pour que le monde puisse aller de l'avant vers une culture mécanisée. Subventionner l'insémination artificielle pour que les animaux puissent donner plus de lait, plus de viande.
Le docteur Lamissa Diakité, agroéconomiste, plaide pour l'amélioration des infrastructures rurales ainsi que pour des formations continues destinées aux agriculteurs et éleveurs. Cela dans le but de renforcer leurs compétences et leur autonomie.
L'encadrement de plusieurs types de développement rural, l'agriculture dans les communes, dans les villages, des collectivités territoriales, le financement et cofinancement des programmes d'appui technique en partenariat avec l'État, les ONG, les projets de développement.
Malgré les efforts en cours, le développement rural reste un chantier ouvert pour des citoyens qui font face au changement climatique et aux déplacements forcés vers les grandes villes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La Cour d'assises spéciale sur les procès de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a pris fin ce mardi à Bamako. Elle a condamné l'ancienne ministre des Finances, Mme Boiré Fili Sissoko, à 10 ans de réclusion criminelle et 7 ans pour l'officier militaire Noum Dabitao, l'ancien ministre Moustapha Bembarka, l'opérateur économique Sidi Mohamed Kanyasi, Noum Kouma et Amadou Kouma ont été condamnés par coutumance à perpétuité. Les contentieux de l'État réclament aux coupables plusieurs dizaines de milliards des Français CFA en guise de réparation et dommages. Les explications avec Imira Nakilumega.
Après le verdict sur les peines d'emprisonnement, le contentieux de l'État a demandé des condamnations pécuniaires pour les coupables. Issa Alioumaïga, représentant du contentieux de l'État, revient sur les montants réclamés.
Sur le volet de l'avion présidentiel, la condamnation au paiement de la somme de 3 320 189 000 francs CFA contre Mme Boiré Fili Sissoko et M. Moustapha Bembarka. La direction générale du contentieux de l'État demande la condamnation de Mme Boiré Fili Sissoko, Amadou Kouma, Mohamed Sidi Kanyasi et Noum Dabitao pour le montant de 26 milliards représentant la condamnation de l'État. Le paiement de la somme de 15 milliards contre Mme Boiré Fili Sissoko, Amadou Kouma, Mohamed Sidi Kanyasi.
Cette demande du contentieux est catégoriquement refusée par les avocats de Mme Boiré Fili Sissoko et de Noum Dabitao. Maître Djangina Tunkara, conseiller de l'ancienne ministre des Finances, estime que le contentieux du gouvernement n'a pas justifié le préjudice.
Il y a quelque chose aussi qui relève un peu de l'acharnement. Parce que dans cette affaire, l'arrêt des renvois a bel et bien dit qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de ma cliente. Si tant est qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, pourquoi toutes ces prétentions financières? C'est un peu mon désaccord avec le contentieux de l'État, qu'il veuille bien justifier son préjudice.
Malgré les arguments de la défense, la Cour a accédé à la demande formulée par le contentieux de l'État en condamnant les coupables au paiement des frais susmentionnés. La Cour a aussi renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir dans sa demande de réparation de préjudice relativement aux héritiers de Soumaïlou Boubaï Maïga.
Sur un tout autre sujet, dans certaines familles, aller à l'école relève d'un parcours de combattant. Manque des frais de transport, absence de petit-déjeuner, ces enfants rencontrent autant d'obstacles liés à la pauvreté de leurs parents. Cela est à l'origine de beaucoup d'échecs scolaires. Cependant, des responsables scolaires et des sociologues s'accordent à dire que la précarité ne doit pas être un frein à l'éducation des enfants. On en sait davantage dans ce reportage signé Baldé Abibatoulaye.
Fanta et Mamadou sont tous des élèves à l'école fondamentale Nelson Mandela. Ils s'apprêtaient à entrer en classe car ils nous confiaient d'une voix timide que les difficultés financières de leurs parents pèsent sur leur éducation.
Souvent, je reste à la maison parce que mon père n'a pas les moyens pour que je puisse aller à l'école. J'arrive même pas à avoir de cahier ni de bille. C'est très difficile pour mon père.
On ne donne rien pour aller à l'école. Souvent, ils nous renvoient de l'école parce que le paiement n'a pas été effectué.
À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Omar Koulibaly, père de 5 enfants, tous scolarisés, dans sa modeste maison. Il nous parle des défis quotidiens qu'il affronte.
Pour trouver de l'argent et payer la scolarité et les fournitures scolaires des enfants, ce n'est pas facile. Encore moins prendre en charge leur cantine.
Mais face à cette réalité, le sociologue Mohamed Abdallahi El Khalil estime que la pauvreté des parents ne doit pas être un frein à l'éducation des enfants.
Pour que la société ne soit pas une société de pervers, une société de bandits, une société d'ignorants, il faut vraiment qu'on accorde une place primordiale à la scolarité continue des jeunes enfants. Je pense que les parents doivent faire des plaidoyers auprès des gouvernants.
Selon des responsables scolaires, le constat est alarmant. De nombreux enfants abandonnent les bancs à cause du manque de moyens.
Le tribunal du travail de Bamako s'est déclaré incompétent pour trancher l'affaire des travailleurs licenciés d'Orange Mali après 9 mois de procès. Le collectif de travailleurs temporaires licenciés compte saisir la cour d'appel pour faire valoir leurs droits suite à ces licenciements qu'ils jugent injustes. Mati Bagayogo est le porte-parole du collectif. Il est joint au téléphone par Moussa Gmahaha.
Après que le tribunal du travail s'est déclaré incompétent, nous comptons saisir la cour d'appel parce que nous n'avons pas compris cette décision parce que nous détenons des contrats de travail en bonne et due forme. Et même ceux qui détiennent des contrats de prestation, nous avons demandé l'avis de l'inspection et l'avis de la Direction nationale du travail par rapport à ces contrats de prestation qui ont été délivrés par les bureaux de placement via Orange. Et l'inspection a été très claire. Il dit que ce n'est pas des contrats de prestation, c'est des contrats de travail déguisés en contrats de prestation. Et nous comptons sur la cour d'appel que le droit sera dit et que nous serons mis dans notre droit.
À Sikasso, une journée de démonstration sur la valorisation des productions maraîchères a eu lieu le 8 juillet 2025 dernier. Cette activité est organisée par le projet SAFEG en collaboration avec l'ONG AMED. Son objectif est d'amener les femmes à l'auto-emploi et à la création d'entreprises. Une vingtaine de femmes ont pris part à l'activité.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La chronique Zoom sur d'aujourd'hui parle du style vestimentaire lors des cérémonies funéraires musulmanes. Zoom sur la mauvaise expérience qu'ont vécu des cousines. Un récit signé Fatoumata Moussoukoura Diarra.
Ce matin-là, Halima s'apprêtait à commencer sa journée de travail quand son téléphone sonna. C'est son ami d'enfance Abdallah, en larmes. Son père venait de décéder. Sous le choc, elle appelle sa cousine Aïssata pour lui faire part de la nouvelle. Celle-ci l'a trouvée au boulot pour l'accompagner à l'enterrement. Mais Halima vient de se rendre compte qu'elle n'était pas habillée conformément aux circonstances, car elle portait un ensemble chemise-pantalon. Elle a juste pu prêter un foulard avec une collègue du bureau. En route, Halima n'arrête pas de se lamenter sur sa tenue. Sa cousine Aïssata, elle aussi, n'était pas dans le code vestimentaire adapté. Tente de la rassurer. « Allons-y comme ça, sinon on ratera l'enterrement. » À leur arrivée, les regards fusent et les murmures commencent. « Regarde sa tenue vestimentaire.
Autrement dit, elles n'ont pas peur de Dieu. Le prêcheur à la cérémonie aussi de son côté a subitement changé de sujet en dénonçant leur tenue inappropriée. Certes, Halima et sa cousine étaient animées de bonne foi, soutenir un ami dans l'épreuve. Mais devraient-elles se présenter ainsi à la cérémonie? À chacun d'en juger.
Chronique signée Fatoumata Boussokoura Diara. Merci. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamari, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Merci d'avoir choisi Studio Tamari pour suivre l'actualité. Qu'Allah bénisse vos journées. Il y a quelques semaines, les proches des malades voulaient lyncher un agent de santé parce que ce dernier a refusé de laisser un patient pour s'occuper de leur malade. Les violences contre les personnels médicaux sont fréquentes. Ces derniers dénoncent une négligence, un manque d'accueil et de considération dans les structures de santé. Une situation déplorable selon des psychologues. Ils affirment que ces tensions entre patients et personnel médical s'expliquent par plusieurs facteurs. Des sociologues appellent à restaurer un climat de confiance entre les deux parties. C'est le sujet du magazine Santé du jour, réalisé et présenté par Ousmane Alibouli avec le soutien de nos correspondants locaux.
Lorsqu'un patient est en interaction avec un agent de santé et que ses attentes ne sont pas comblées en termes d'accueil, des solutions à son problème et de respect envers sa personne, ces derniers peuvent vite s'énerver parfois. Voilà comment des habitants des Kaï, des Yamfolila et des Bankas expliquent cette situation.
Si le patient est mal accueilli ou que tu lui tiens des propos déplacés, cela peut être une source de tension.
Quelqu'un qui souffre et à qui l'on ajoute des paroles blessantes peut se sentir incompris. Cette situation peut générer des conflits.
Moi, je pense que pour éviter ça, les médecins doivent jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire quand les patients viennent, s'occuper d'eux le plus rapidement possible.
Certains patients sont désagréables envers les agents de santé, témoigne Dr Oumar Diko, médecin en spécialisation de médecine des familles et communautaires. Il affirme être victime parfois des mots blessants, mais n'a jamais quand même été agressé physiquement par un patient, reconnaît-il.
Dans ma pratique, je n'ai jamais été victime d'agression physique, mais par contre, souvent, il y a des patients qui viennent, qui nous parlent mal, les patients sont pressés. Alors que souvent il y a des urgences, on traite les urgences. Et là, souvent il y a des sens de mauvaises paroles envers les agents de santé.
Certains facteurs peuvent être source de violence entre l'agent de santé et le patient, affirme Dr Daraman Alhaji Touré, spécialiste en psychologie appliquée à l'université Yambo-Oulegem. L'universitaire avance aussi qu'une formation des qualités des agents de santé leur permettrait de travailler avec efficacité.
La phobie de la blouse blanche est un facteur d'agression et de violence, souvent vis-à-vis de l'agent de la santé. Ensuite, le deuxième facteur, c'est les patients qui sont atteints de troubles mentaux. Donc souvent, ils peuvent avoir des comportements agressifs vis-à-vis des agents de santé. Et le troisième facteur, c'est la formation donc, de l'agent de santé en psychologie qui fait que le patient il peut avoir la confiance. Et quand on a la confiance, souvent, on se confie à son agent de santé.
Des sociologues estiment qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société avec d'énormes difficultés, notamment économiques, où presque tout le monde est tendu. Dans ce contexte, Seydou Magassa pense que l'agent de santé doit mettre le patient en confiance et ce dernier aussi doit coopérer pour son bien-être.
Il appartient à mon avis à l'agent de santé de savoir que le malade, s'il a un comportement qui n'est pas tout à fait commode, c'est qu'il a des problèmes. Et il lui appartient d'essayer de tranquilliser la personne, d'adopter une approche particulière. Le patient sache aussi qu'il est patient. C'est vous qui êtes en position de faiblesse, donc vous devez faire preuve de diplomatie.
Sidi Koulibaly est le secrétaire général de l'Ordre des infirmiers du Mali. Selon lui, les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. Il ajoute que les autorités doivent veiller à la sécurité des agents de santé pour qu'ils travaillent en toute quiétude.
L'administration est tenue de leur assurer effectivement cette protection contre les attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer le cas échéant des préjudices qui en est résulté.
Enfin, il faut noter que pour le bien de tous, toutes les deux parties doivent faire preuve de sagesse et de compréhension pour trouver une solution pour les patients.